Chers amis, est-ce que vous m'entendez bien?
Oui. On dirait la voix du ciel, cette forme des nuages. Cher monsieur le chanoine, si, puisque le père Guillaume de Gantière est chanoine de Notre-Dame de Paris, enfin, oui. Ce n'est pas comme ça, c'est le 16e partibus, mais enfin, voilà, c'est en train d'être restauré. J'ai songé en préparant ces quelques mots pour vous accueillir et pour introduire votre propos à cette phrase que l'on impute au redoutable Charles Maurice de Taillebourg-Périgord, rien moins. Méfiez-vous de la première impression, c'est souvent la bonne. Je voudrais m'expliquer, et il se trouve que, et vous m'avez fait l'honneur tout à l'heure de me dire que vous vous souveniez de cet événement, c'était il y a 12 ans, la première fois que je vous rencontrais à la chapelle Notre-Dame du Lys, que certains peut-être connaissent ici, dans le 15e arrondissement. Nous avions, avec quelques amis, envisagé de créer un cycle de conférences pour les étudiants et jeunes professionnels. Et il nous avait fallu, préalablement, demander l'autorisation du maître des lieux, à savoir le curé de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, que vous étiez alors. Et vous avez eu la gentillesse de venir nous accueillir, en réalité, je ne sais pas si vous vous souvenez précisément de cela. Et d'emblée, je vous le dis sans flagornerie, vraiment, j'ai été frappé par votre bienveillance, par la bonté qui émanait de votre personne, c'est vrai. Et je dois dire que Taïran Périgord a raison, puisque cette impression, je crois que c'est la bonne. Par la suite, ayant eu l'occasion, non pas tant de vous revoir, parce que nous nous sommes recroisés que deux fois par la suite, mais en ayant eu l'occasion d'ouvrir vos livres, notamment pour m'en inspirer, je le confesse, sans honorer les droits d'auteur, pour ces 10 topos là, que je donnais aux jeunes. Également en écoutant les conférences de Carême que vous avez eu l'occasion de donner à Paris donc, en 2019, 20 et 21, l'impression se confirmait de votre bonhomie. Et à cela s'ajoutait encore quelque chose qui allait dans le sens de la bonhomie, qui est à mon sens une qualité certes humaine, mais spécifiquement chrétienne en réalité. Je m'apercevais que vous aviez à la fois une vraie érudition, qui est sans doute imputable à Dieu pour les dons qu'il vous a donnés, mais aussi à un travail assidu, je pense, notamment dans les différents lieux où vous avez eu à exercer le ministère, les classes préparatoires notamment, je ne cite que Henri IV, les Bernardins, vous enseignez, la charge curiale, qui vous était chue plusieurs fois de suite, maintenant c'est Notre-Dame de l'Assomption, Assis. Et de tout cela, ressortait un équilibre, ou pour le dire, une sorte de bouquet éminemment sympathique dans la manière de transmettre ce savoir que vous aviez accumulé de manière accessible et de manière drôle. Pas grotesque, fondamentalement drôle. Lorsqu'on sait qu'avec Chesterton, la joie est spécifiquement ce qui distingue ou ce qui devrait distinguer le chrétien, je me disais que vous étiez à votre place tant que prédicateur chrétien, catholique, par surcroît, et j'ai toujours beaucoup apprécié, et après j'arrête de vous lancer des fleurs et vous laisse enfin la parole pour que l'Assemblée se rende compte que j'ai fortement exagéré. Vous aviez dans votre manière de parler des références cinématographiques, singulièrement à un certain Michel Audiard, des références musicales nombreuses, une manière de parler qui tient à la fois du grand siècle et du Titi Parigo, si vous me passez l'expression, je pense que vous s'ira. Voilà, je crois que j'espère, puisque c'est dans le thème. C'est le thème de notre année et c'est celui auquel vous allez nous introduire ce soir encore, l'espérance. J'espère fermement que ce soir encore, cette alchimie va pouvoir se manifester. En fait, je suis sûr. Voilà, c'est donc sur l'espérance, notamment motivée par le mystère de l'incarnation, que vous avez accepté de nous parler ce soir. Alors, on a fait bref dans la publicité. publicité qui a été faite de cette conférence en disant Noël comme motif de l'espérance. En réalité, c'est plus largement de toute la geste de l'incarnation du Fils éternel qu'il s'agit. C'est saint Thomas d'Aquin qui a pointé cela comme étant un puissant remède à l'ascédie, cette fatigue d'être, cette langueur spirituelle qui, je crois, aujourd'hui, plus que naguère, nous frappe, nous autres, de vieilles contrées chrétiennes. J'ai assez parlé, j'ai assez vanté, vous pardonnerez ces excès peut-être, mais voilà, c'est un hommage que je croyais devoir vous rendre ce soir. Merci beaucoup d'être ici et de nous instruire.
Je propose que d'abord nous tournions vers celui dont nous allons parler, notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous prions ensemble un instant pour introduire cette conférence. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes toujours fidèle dans vos promesses. Vierge Marie, au seuil de la fête de votre Immaculée Conception, vous, Mère de l'Espérance, nous vous saluons. Je vous salue, Marie.
Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
Alors évidemment, je suis tétanisé de parler devant vous, encore plus après les mots que la bibliomane vient de prononcer, que j'ai reçu de votre curé tout à l'heure à table. Voilà, donc je suis très heureux. Mais ce qui me rassure un peu, c'est que j'ai vu plein de visages connus. Donc je me suis dit que je suis en pays de connaissance. De toute façon, nous sommes frères et sœurs en Christ, ce qui est la plus belle familiarité qui se puisse exister. Alors, quand, à vrai dire, j'avais compris que c'était une conférence sur la confirmation, et ça n'est que depuis peu de temps que je sais que c'est une conférence sur l'espérance. Alors, vous inquiétez pas, j'ai fait. Sur l'espérance. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai dû faire une conférence à Gerson, le collège et le lycée Gerson, qui connaissent, sur le principe de non-contradiction pour des terminales. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter pour des terminales en plus. Et alors je m'en suis ouvert à quelques étudiants de prépa que j'ai à la Bédry. Il y a ChatGPT. Alors ils m'ont fait conférence sur le principe de non-contradiction sur ChatGPT. J'avais ma conférence. Voilà. Alors rassurez-vous, c'est pas ce que j'ai fait ce soir. J'ai adopté un plan plus classique. Je suis parti des mots d'espérance et de Jésus-Christ, tout simplement, pour essayer de développer ce thème. Parce que Jésus-Christ, évidemment, est notre espérance, et à vrai dire, Jésus-Christ est tout pour nous. C'est saint Ambroise aujourd'hui, la grande fête de saint Ambroise de Milan, et il me plaît de commencer par ce texte qui pourrait d'ailleurs aussi bien achever la conférence. Je vous l'ai mis. Omnia igitur habemus in Christum. Omnia Christus est nobis. C'est fini, la conférence est finie. Nous avons tout en Christ. Le Christ est tout pour nous, dit saint Ambroise de Milan. Si tu veux guérir une blessure, il est le médecin. Si tu es brûlant de fièvre, il est la fontaine. Si tu es opprimé par l'iniquité, il est la justice. Si tu as besoin d'aide, il est la force. Si tu crains la mort, il est la vie. Si tu fuis les ténèbres, il est la lumière. Si tu cherches ta nourriture, il est l'aliment. Goûtez donc et voyez comme est bon le Seigneur. Heureux l'homme qui espère en lui. Voilà le texte magnifique de saint Ambroise. Après avoir dit ça, pratiquement la conférence est finie. Mais il se trouve que récemment, on m'a demandé un livre sur l'Eucharistie. Je suis en train de rédiger. rédigé, enfin qui est déjà rédigé, et j'ai travaillé pour actualiser un petit peu sur le bienheureux Carlo à Cotis. Je suis sûr que vous êtes nombreux à le connaître parce qu'il a la cote en ce moment dans les milieux catholiques. Et il faut dire qu'il est vraiment formidable, ce jeune adolescent, le bienheureux Carlo à Cotis. Et vous savez qu'on lui attribue cette parole magnifique, « L'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel ». Avant d'étudier un petit peu, et bien j'ai découvert que quand il a fait sa première communion, à l'âge de 7 ans, alors que sa maman, que peut-être vous avez pu entendre, car elle vient souvent en France faire des témoignages, elle parle français avec un délicieux accent italien, et quand elle donne son témoignage, et bien elle dit « Moi, en tout et pour tout, avant la première communion de Carlo Acutiste, de mon fils Carlo, j'étais allé 3 fois à la messe, le jour de ma propre première communion, le jour de mon mariage et le jour de la première communion de Carlo. 3 fois, la deuxième. Et Carlo, lui, voulait faire sa première communion. Il avait 7 ans. On décide que sa première communion sera faite non loin de Milan, à Varèse. Donc on prend la voiture, on se rend dans ce couvent des sœurs ermites de Saint-Ambroise à Varèse et on prend l'autoroute. Et cette autoroute, figurez-vous, c'est une autoroute qui a été construite en 1924, qui est la première autoroute du monde, dont les Italiens sont très fiers. Ça s'appelle l'autoroute des lacs, au large de Milan, on va à Varèse. Donc j'imagine que cette idée, l'Eucharistie sera mon autoroute vers le ciel, a germé peut-être dans la tête du petit Carlo, en prenant avec ses parents l'autoroute pour aller à Varèse. Et il va donc faire sa première communion à Varèse, dans le couvent des sœurs. Et dans le couvent des sœurs, il y a un tabernacle, et sur le tabernacle, il y a marqué « Omnia Christus est nobis ». Le Christ est tout pour nous. Exactement le texte de saint Ambroise qu'on vient de lire. Forcément, saint Ambroise, c'est la grande gloire locale, c'est saint Ambroise de Milan. Le Christ est tout pour nous. Donc, il est évidemment notre espérance, comme nous allons le voir. Alors, entrons dans le vif du sujet, après cette captatio benevolentiae un peu longue, et nous allons d'abord considérer que, bien sûr, l'espérance est une vertu théologale. Et là, il me paraît très important de re-théologaliser toute la vie chrétienne. La foi, l'espérance et la charité sont bien sûr des vertus théologales. C'est bien sûr, je n'ai pas besoin de vous rappeler, puisque vous faites toute une année sur l'espérance, le fameux porche du mystère de la deuxième vertu de Charles Péguy et comment la petite fille Espérance marche entre ses deux grandes sœurs, la foi et la charité. Vous connaissez par cœur ce texte magnifique de Péguy. La foi, dit Dieu, ça ne m'étonne pas. Ça n'est pas étonnant. Ça se voit trop que j'existe. Pour ne pas croire en moi, il faudrait se retourner l'esprit. Alors, re-théologaliser le christianisme, ça veut dire remettre le cap sur Dieu. Une vertu théologale, c'est-à-dire qui a Dieu pour principe et pour objet. La foi, comme l'espérance, comme la charité, ont Dieu pour objet. C'est-à-dire que nous n'espérons pas le salut. Nous espérons Dieu qui est notre salut. Nous ne croyons pas en la résurrection. Nous croyons en Dieu qui ressuscite les morts. Nous ne croyons pas en l'Immaculée Conception. Nous croyons en Dieu qui a préservé Marie de tout péché. Et re-théologaliser. Notre foi, elle est en Dieu, et en Dieu seulement. Notre espérance, elle est en Dieu, et en Dieu seulement. Il faut re-théologaliser toute la vie chrétienne. Alors je le dis d'autant plus que l'espérance, souvent, eh bien, peut s'égarer. Par exemple, j'avais eu faire, ça a été rappelé, des conférences de carême, et l'archevêque de l'époque m'avait dit il y a un problème en ce moment, c'est le transhumanisme. Parce que maintenant, on arrive à considérer que peut-être un jour, pourquoi pas, on pourra vivre indéfiniment sur cette terre, le jour où les savants auront vaincu la mort. Alors, il y a beaucoup de gens qui seraient très désireux de prolonger un peu leur vie sur cette terre, voire de la prolonger indéfiniment. Mais nous, chrétiens, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous, on ne veut pas vivre toujours ici-bas. Ce qu'on veut, c'est voir Dieu. Notre espérance, elle est en Dieu. De sorte que même si on me proposait un sérum d'immortalité qui me permettrait de vivre indéfiniment sur cette terre, eh bien, je choisirais de quitter cette terre pour pouvoir enfin étreindre celui qui est mon espérance, à savoir le Dieu éternel. Le vœu chrétien n'est pas le sempiternel, mais l'éternel. Notre espérance n'est pas de vivre toujours ici-bas, mais d'accéder à une autre forme de vie dans un au-delà. Nous pouvons tous dire avec saint Paul, « Cupio dissolvi », j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. Notre grand désir, c'est ça. Notre grande espérance, c'est d'être avec le Christ dans la gloire de Dieu. Il faut donc re-théologaliser l'espérance, la foi, la charité et dire avec saint Augustin, quand saint Ambroise baptisa, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » C'est la phrase, vous savez, d'ouverture des confessions de saint Augustin. Dieu seul comble et apaise. Et nous, nous savons où est notre bonheur, parce qu'en fait, tout homme, qu'il soit chrétien ou non, espère le bonheur. Nous avons cette chance, nous, de pouvoir mettre un nom sur le bonheur, et ce nom, c'est Jésus-Christ. J'aime bien signaler que dans l'évangile de saint Jean, par exemple, l'évangile de saint Jean commence par une phrase que Jésus, le premier mot que Jésus adresse à ses disciples, « Que cherchez-vous ? » Vous savez, il y a deux disciples qui l'ont pris en filature, hein, comme les deux Dupont apostoliques. Et puis Jésus se retourne, ils se sont tout de suite fait repérer, et leur demande « Que cherchez-vous ? » C'est la première question. Une bonne question qu'on peut tous se poser. Finalement, qu'est-ce que je cherche ? Au fond, quel est mon désir, mon tourment, mon espérance ? Qu'est-ce que je cherche dans la vie ? Que cherchez-vous ? Ça, c'est la question au début de l'Évangile. Puis à la fin de l'Évangile de saint Jean, on a Marie-Madeleine, qui dans le jardin est en larmes. Elle pleure. Et le jardinier, celui qu'elle prend pour le jardinier, se retourne vers elle et lui dit « Qui cherches-tu ?» On a pris le corps de Monseigneur, je ne sais pas où on l'a mis. Qui cherches-tu ? Mais on passe dans l'évangile de ce « Que cherchez-vous ? » C'est-à-dire d'une recherche indifférenciée d'un bonheur à la pleine nomination de ce bonheur. Désormais, Marie-Madeleine, elle sait très bien qu'elle cherche. Elle cherche le Seigneur parce qu'elle sait que son bonheur, c'est le Seigneur. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur, comme nous chantons dans les psaumes. Un jour, nous le verrons tel qu'il est, et quiconque a cette espérance, dit saint Jean, se sanctifie. 1 Jean 3:3. Le pape Benoît XVI, vous avez écrit une magnifique encyclique sur l'espérance, sauvé dans l'espérance, et il donne comme figure de l'espérance sainte Joséphine d'Akita. Je ne la connais pas beaucoup, mais esclave au Soudan, au Darfour, évidemment maltraitée par ses maîtres, son grand espoir, c'est d'avoir enfin un maître moins cruel. Mais ça, c'est n'est qu'un espoir, car elle est soulevée en fait par une espérance bien plus profonde, l'espoir de trouver enfin le maître dont elle serait définitivement et souverainement aimée. Saint Paul rappelle aux Céphésiens qu'avant leur rencontre du Christ, ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et Benoît XVI commente en disant « Celui qui ne connaît pas le vrai Dieu, tout en pouvant avoir de multiples espérances, est dans le fond sans espérance, sans la grande espérance qui soulève toute existence. Christ Jésus, notre espérance, Christ, espérance de la gloire. » Dit saint Paul. Alors, quelle est la différence, justement, entre espoir et espérance ? 3 différences. La certitude, la stabilité, l'excès. Par rapport aux espoirs humains que nous avons tous, l'espérance se marque par la certitude. Avoir l'espoir, c'est escompter qu'une chose se produira, peut-être. Mais sans certitude, par exemple, j'ai l'espoir de réussir mes examens. Et c'est pas sûr que je les réussisse. J'ai l'espoir de gagner au loto. Ou j'ai l'espoir que ma grand-mère guérisse. Ben, c'est pas sûr. Peut-être, mais c'est pas sûr. C'est possible, mais c'est pas sûr. Tandis que l'espérance, c'est l'attente certaine du salut de Dieu. Comment ne pas rappeler les mots de saint Paul que j'ai vus, il y a bien longtemps, c'est fou ce que le temps passe, c'était en 1997, vous les avez vus aussi sûrement, au moment des Chienchi à Paris, dans le métro, des énormes placards publicitaires, avec marqué « L'espérance ne déçoit pas ». C'est une phrase de saint Paul. « L'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans le cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Romains 5:5. Il y avait quand même, c'était assez génial, je ne sais pas comment vous avez fait là, à l'époque, la RATP était sans doute moins anticléricale qu'aujourd'hui. En tout cas, il y avait des grands placards avec des phrases bibliques. Dans le métro, au mois de juillet, au mois d'août, pendant les JMJ. Et cette phrase m'avait marqué « L'espérance ne déçoit pas ». Voilà ce que dit saint Paul. L'espérance est certaine de son objet. Espérer, c'est être certain d'obtenir ce qu'on espère. Alors c'est important parce que souvent, aujourd'hui, eh bien, nous sommes plutôt dans un christianisme rétracté et on présente souvent la foi et l'espérance comme des choses un peu vagues, un peu floues, un peu incertaines, un peu sujettes à caution. Combien de fois je vois des chrétiens qui, sous le dehors de l'humilité, se disent « Oh, je ne suis pas si sûr, je ne sais pas bien, c'est peut-être comme ça, mais on n'a pas la vérité, mais taratata, la foi, c'est une certitude. Gardons indéfectible la confession de l'espérance, car celui qui est promis, qui a promis, est fidèle. La foi est certaine, dit le catéchisme de l'Église catholique, plus certaine que toute connaissance humaine, parce qu'elle se fonde sur la parole même de Dieu qui ne peut pas mentir. De même, l'espérance est certaine. C'est pas improbable, il y a peut-être quelque chance de... Non, c'est certain. Donc il faut s'établir fermement dans cette certitude. Lisons le texte magnifique. Regardez Saint-Cyprien de Carthage, en pleine persécution. À une époque où être chrétien, ça veut dire être bouffé par les lions. Voilà ce qu'il écrit. C'est le texte 2, vous avez sur vos feuilles. Chez nous, les chrétiens, on trouve la vigueur de l'espérance et la fermeté de la foi. Jusque parmi les ruines d'un siècle délabré, notre esprit reste debout, notre vertu immobile et notre patience ne manque jamais de joie. Notre âme est toujours sûre de son Dieu, comme cela est corroboré par la voix céleste. Et là, il cite le prophète Habacuc. Ça, c'est magnifique, ce texte du prophète Habacuc. Si on le dit à l'office le vendredi matin, alors c'est extraordinaire. J'aime beaucoup citer ce texte. Donc, le prophète fait l'état de la situation. Le figuier n'a pas fleuri. Pas de récolte dans la vigne. Le fruit de l'olivier a déçu. Plus de bétail dans les enclos. Plus de troupeaux, plus de brebis, plus rien. La carie pénètre mes os. Je frémis d'être là. Voilà le tableau. Et quel est le verset suivant? Et moi, j'exulte toujours en Dieu, mon Sauveur. Ça, c'est extraordinaire. On croirait qu'il décrit l'Église de France au début. Plus de brebis dans les enclos, le bétail a disparu, plus de fruits dans les vignes. C'est la situation de l'Église de France, la cata. Et la réaction, c'est quoi? Et moi, je bondis toujours en Dieu, mon Sauveur. J'exulte. Ça, c'est, je trouve ça important de dire ça aux chrétiens. Souvent, quand je vais à droite, à gauche, et même dans ma paroisse, dans ma paroisse, ils ont quelques raisons, ils sont un curé déficient. Mais ailleurs, je trouve quelquefois des chrétiens géniaux. Ah, mais il n'y a plus de prêtres, mais les jeunes ne font plus rien. Et moi, je bondis de joie. Voilà, ça doit être ça, la réaction. J'exulte en Dieu mon Sauveur. Quelle est belle cette parole d'Habacuc. Le chrétien nie qu'un homme de Dieu, qu'un homme qui voue un culte à Dieu, appuyé qu'il est sur la certitude de l'espérance, Pei Veritate, établi qu'il est sur le fondement stable de la foi, Fidei Stabilitate, puisse être ébranlé par les assauts furieux du monde de son temps. Rien ne peut nous ébranler, car la foi, c'est un roc. L'espérance, c'est un roc. C'est indubitable, c'est certain, plus certain que toute connaissance humaine, que tout espoir humain. Il y a la fermeté de l'espérance. La stabilité, deuxième caractéristique de l'espérance, c'est une vertu, l'espérance. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec une humeur, comme l'optimisme. Entrer dans l'espérance, ce n'est pas simplement adopter une positive attitude ou refuser de se ranger parmi les déclinologues. Espérer, c'est avoir acquis une disposition stable. Une vertu, c'est un habitus. C'est avoir ancré notre âme en Dieu. Vous connaissez le beau texte de l'Épître aux Hébreux qui présente l'espérance comme l'ancre de l'âme. L'Épître aux Hébreux nous invite au chapitre 6 à saisir fortement l'espérance qui nous est offerte. En elle, nous avons comme une ancre de notre âme, sûre autant que solide et pénétrant par-delà le voile. On a, nous, chrétiens, jeté l'ancre, fiché dans le ciel, l'ancre de notre âme, de sorte que nous sommes vissés sur le définitif. Ah, c'est beau ça comme expression. Vissés sur le définitif. Notez, vissés sur le définitif. Nous sommes vissés sur le définitif. Saint Paul parle du casque de l'espérance du salut. Moi, je m'appelle Guillaume. Guillaume, ça veut dire le casque de la volonté. Ville, elle. Voilà. Le casque de l'espérance du salut. Il faut, comme nous l'entendions dimanche dernier dans la liturgie, tenir bon jusqu'au bout, car il est fidèle le Dieu qui nous appelle. Dimanche dernier, nous avions un grand appel à la vigilance. Alors, moi, ça va, ça me répile, tout ça s'appelle la vigilance. Orange, rouge, écarlate, apoplectique, tout ce que vous voulez. Mais nous sommes entrés dans la vigilance violette de l'avant, qui n'a rien à voir évidemment avec une vigilance anxieuse, mais qui est une vigilance amoureuse, tendue vers le bonheur qui vient. Plus qu'un veilleur attend l'aurore, mon âme attend le Seigneur. J'aime bien dire qu'il faut espérer et attendre le Seigneur comme Jacques Brel attend Madeleine. Et c'est la chanson. Ce soir, j'attends Madeleine, on ira au cinéma, manger des frites chez Eugène, on prendra le et Madeleine, on aimera ça. Eh bien, le grand Jacques, il attend Madeleine, même quand le cinéma a fermé, même quand on a fermé chez Eugène, même après le dernier tram 33, il attend Madeleine, parce que Madeleine, c'est son Noël, c'est son Amérique, c'est son espérance à lui. Voilà. Mais nous, c'est pareil. Tout ferme. Les églises et machin, on s'en fout, on attend Madeleine. On est tendu dans l'espérance vers Dieu et on exulte de joie dans la certitude que nous sommes aimés bien plus par Dieu que Madeleine, évidemment, même le grand Jacques. Voilà. Enfin, il faut durer, il faut tenir bon dans l'attente et dans l'espérance. Enfin, troisième, évidemment, caractéristique de l'espérance, l'excès. L'excès. Évidemment, nous avons tous des espoirs, mais nos espoirs sont bornés par l'altitude de nos désirs. Nous ressemblons à des chenilles. Si vous interrogez la chenille, qu'est-ce qu'elle espère ? Devenir une grosse chenille. Elle ne sait pas. Cette chenille bornée, obtue, qu'elle est destinée à être un papillon, libre et heureux dans l'azur. Elle a limité ses ambitions à son horizon terrestre, de manière lamentable. Beaucoup de nos contemporains limitent leurs ambitions à l'horizon de ce monde. Ils ne savent pas qu'ils sont faits pour être des créatures pleinement épanouies dans la gloire de Dieu. Ils ignorent. Pour eux, l'espoir, ça veut dire eh bien, avoir assez d'argent à la fin du trimestre. L'espoir, ça veut dire avoir une belle situation, trouver une belle épouse, réussir un bel examen, toutes choses qui sont très bonnes. Enfin, c'est pas ça l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne excède de toutes parts tout ce que nous pouvons désirer. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, dit saint Paul, nous sommes les plus à plaindre. Tous les hommes. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme, vous voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. L'espérance atteint Dieu en s'appuyant sur son secours pour parvenir au bien espéré. Notre espérance dépasse de toutes parts tout ce que nous pouvons même imaginer. Alors on peut pécher contre l'espérance. J'ai relu, grâce à vous, je vous remercie, le petit chapitre de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin sur l'espérance, et saint Thomas dit qu'on peut pécher de deux manières contre l'espérance, par présomption ou par désespoir. Par présomption d'abord, et on peut pécher par présomption de deux manières, ou bien en comptant trop sur la bonté de Dieu. En se disant, de toute façon, le Seigneur ne m'a pas créé pour me perdre, donc je peux vivre ici comme un battu de chaise, je peux faire ce que je veux sur la terre, de toute façon j'ai été créé pour une destinée éternelle en Dieu, et donc je peux pécher allègrement, Dieu sera toujours bien plus miséricordieux que tous les péchés que je suis capable de faire. On peut répondre, certes, Dieu ne t'a pas créé pour te perdre, mais il ne t'a pas créé non plus pour que tu pèches. Donc, il s'agit évidemment de vivre de telle manière que nous nous conformions à l'espérance qui est la nôtre. Si nous espérons la gloire du ciel et l'amour de Dieu, il faut vivre évidemment en aimant. Alors ici, on répond à une objection que l'on fait souvent contre l'espérance chrétienne. Est-ce que l'attente du ciel ne nuit pas à nos engagements terrestres? On a beaucoup dit ça dans les années qui sont passées maintenant, à la suite de Nietzsche, qui considérait l'espérance comme une de ses vertus couronnées de pavots, c'est-à-dire une espèce d'anesthésiant qui endort les chrétiens, qui dit « tu te tiens tranquille et puis là-haut tu auras le ciel ». Donc voilà. Donc l'espérance fait en sorte que, eh bien, on ne s'engage plus pour la justice dans ce monde, puisque de toute façon, elle passe la figure de ce monde. Ou alors, à la suite de Marx, on a considéré, bien sûr, que cette espérance du ciel, c'était l'opium du peuple, par excellence. Vous connaissez, bien sûr, la fameuse boutade d'André Fransart, qui dit que depuis que la religion n'est plus l'opium du peuple, c'est l'opium qui est devenu la religion du peuple. Et c'est pas tout à fait faux, non plus, quand on voit les problèmes de drogue dans notre société. Alors, évidemment, il faut redire avec le Concile Vatican II, l'espérance eschatologique ne diminue pas l'importance des tâches terrestres, mais en soutient bien plutôt l'accomplissement par de nouveaux motifs. Gaudium et Spes, numéro 21. Cite toujours le Concile pour être politiquement correct. L'attente de la nouvelle terre, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le révéler. Gaudium et Spes, numéro 39. Il va de soi que ce n'est pas parce que nous espérons le ciel que nous considérons que la vie ici-bas est une salle d'attente où on pourra rester les bras croisés. Non, au contraire, c'est précisément parce que nous attendons le ciel que nous œuvrons sans relâche dans ce monde. Il en va comme des arbres. Les arbres, plus ils pointent vers le ciel, plus ils doivent étendre profondément leurs racines dans la terre. L'un ne va pas sans l'autre, et les deux, évidemment, sont logiquement en continuité. Ou encore, comme le phénomène des marées, évidemment, plus l'océan est attiré par la lune, et bien plus il étend son ressac loin sur la terre. Donc, plus nous sommes aspirés dans l'espérance vers le ciel, plus nous sommes agissants ici-bas, dans ce monde, sans aucune contradiction. On peut pécher aussi contre l'espérance par présomption en comptant trop sur nos propres forces, en étant, comme le pape François le dit toujours, pélagiens. Nous sommes globalement pélagiens. Pape François a raison de le dire. Finalement, on mise beaucoup plus sur nos capacités que sur l'amour de Dieu. Bien souvent, or il faut rappeler avec notre Seigneur Jésus-Christ, que l'accès au royaume de Dieu est difficile. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat de l'ennemi qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et vous connaissez la réaction des disciples effarés. Mais alors, qui peut être sauvé? Disent les disciples. Et notre Seigneur répond, pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est évidemment comme un cadeau de la miséricorde de Dieu que nous attendons le salut. Ne soyons pas pélagiens, j'ai écrit un livre récemment qui s'appelle « Le penchant de la grâce », où je définis bien sûr ce qu'est le pélagianisme, et je crois que le pape François a raison dans son diagnostic en disant que globalement, même les chrétiens, même les catholiques, les plus engagés aujourd'hui sont globalement pélagiens, c'est-à-dire qu'ils misent plus sur leur force, sur leur capacité, que sur la grâce divine. On peut pécher aussi contre l'espérance par désespoir. Vous savez que le poète Dante, dans sa Divine Comédie, lorsqu'il arrive à visiter l'enfer, il aperçoit sur la porte de l'enfer, laissez là toute espérance, ô vous qui entrez. L'enfer, c'est par excellence le lieu où il n'y a plus d'espérance. C'est le huis clos, c'est le lieu fermé dont on ne sort pas. Alors qu'il n'y a aucune situation humaine dont on ne puisse sortir. Alors, le désespoir, dit saint Thomas d'Aquin, naît de l'acédie. Le père Vincent Romana a cité tout à l'heure dans son introduction l'acédie, peut-être que ce n'est pas très familier pour plusieurs d'entre vous ce mot d'acédie. C'est un des péchés capitaux, et c'est même le péché capital que les pères considéraient comme le plus grave. Je ne vous fais pas l'injure de vous demander, comme aux enfants du catéchisme, quels sont les 7 péchés capitaux. Certains les connaissent de manière expérimentale, mais tous ne seraient pas capables pour autant de les citer. Il y a l'orgueil, la cupidité, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise et l'ascétie. L'ascétie ou la tristesse spirituelle. Je me suis arrêté aussi dans mon livre sur le penchant de la grâce sur cette ascétie parce qu'il me semble que c'est un peu le mal du siècle. Une espèce de morosité ambiante, de tristesse. On n'a plus d'attrait pour rien, plus d'espérance, plus d'attrait pour rien, plus de désir. Tout nous dégoûte, rien ne nous attire. Disons ce texte, je me mets souvent parmi les pères de l'Église, et donc j'ai le texte 3, je me suis mis parmi les pères de l'Église. Si l'on se réfère à l'étymologie, l'ascédie, c'est la négligence, le non-soin. La, alpha primatif, kédos. Kédos, c'est le soin en grec. La kédos. C'est le tu te laisses aller de la chanson d'Aznavour. Si vous connaissez la chanson, vous voyez de quoi il s'agit. On pourrait dire que l'ascédie est le contraire de la vertu des curés, monsieur le curé. C'est le contraire de. Parce que le curé, il a soin. Par définition. Oh, c'est le soin. Le curé, c'est celui qui a soin des âmes de ses fidèles. L'ascédie, c'est le non-soin. La négligence totale. Comme son nom l'indique, la vertu des curés est de prendre soin, d'avoir cure de leurs soins. Ma paroisse est dévouée par l'ennui. Ce sont les premiers mots du journal d'un curé de campagne de Bernanos. Qu'il est redoutable, le fameux démon bernanosien de l'aquabon. Que je crains les paroisses languissantes où jamais rien n'arrive, parce qu'on a déjà tout essayé en vain. Et que l'on a cédé à une routine lasée. Ici, il y a un bien à voir, je pense à la paroisse. Ailleurs, c'est bien le pire quand rien ne se passe, que tout va à volo et cède à une tristesse accablante, de ces tristesses qui n'aiment pas à être consolées, dont parlait si bien Joseph Malheur. Ma vie est une campagne triste où il pleut toujours, disait Léon Blois. On songe aux effroyables descriptions que donne Flaubert de la vie normande d'une Madame Bovary. Sa vie était froide comme un grenier, dont la lucarne est au nord, et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur. Il y a tellement de nos contemporains qui n'ont aucun espoir. On parlerait peut-être aujourd'hui de manière plus clinique, non pas d'ascédie, mais de déprime. Dépression, de burn-out, de spleen, de blues, je ne sais pas quel mot on emploierait, et on voit bien que là-dedans, on a du mal à discerner quelle est la part de la maladie. Burnout, c'est une maladie. Dépression, c'est une maladie. Et quelle est la part du péché? Difficile à discerner. Les anciens voyaient plutôt l'ascétie comme un dégoût de l'action, une torpeur de l'esprit, une pesanteur de l'âme directement opposée à la vie de grâce, un désintérêt pour le bien divin, un marasme spirituel. L'ascétie est un péché vraiment mortel, au sens où on dit d'un film qu'il est mortel, d'une conférence qu'elle est mortelle, et si je vois que comme vous souriez, ça va, ou d'un livre qu'il est mortellement ennuyeux, rasoir. L'ascétie s'oppose en fait à la joie que procure à l'âme la présence de Dieu. Une tristesse vicieuse s'empare de l'âme, car il y a, selon saint Paul, deux tristesses. Il y a la tristesse selon Dieu, celle de saint Pierre qui pleure amèrement son péché. Cette tristesse-là est bonne, elle conduit au repentir et donc à la joie. Mais il y a aussi une tristesse selon le monde qui produit la mort, dit saint Paul. 2 Corinthiens 7, 10. Alors évidemment, maintenant que nous avons vu de quoi il s'agit dans l'espérance, il faut nous dire que Jésus-Christ est notre espérance. Et pour le dire avec force et avec autorité, je me couvre du prestige de saint Augustin. C'est le texte 4 que vous avez sur vos feuilles. Était-il rien en effet de plus nécessaire pour ranimer notre espérance, pour relever nos âmes abattues sous le fardeau de notre condition mortelle, les empêcher de désespérer de l'immortalité, que de nous faire voir combien Dieu nous estimait et combien il nous aimait? Or, était-il possible d'en donner une preuve plus claire, plus éclatante que celle-là? Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, immuablement bon, restant ce qu'il était en lui-même, prenant de nous et pour nous ce qu'il n'était pas, daignant sans rien perdre sa propre nature, revêtir la nôtre, portant le poids de nos péchés, sans en avoir commis aucun, et aussitôt que nous croyons à l'étendue de son amour et que nous rentrons dans nos espérances perdues, nous versant ses dons par pure générosité, sans que nous les ayons mérités en rien par des bonnes œuvres, après même que nous en sommes rendus indignes par nos fautes. Il n'y avait rien qui puisse mieux relever notre espérance que la considération des bienfaits de Dieu. Or, les bienfaits de Dieu, c'est la grâce. Et la grâce, vous le savez, c'est un mot, là je vous renvoie à ce livre admirable, bien sûr, l'étymologie du mot grâce, reine en hébreu, ranan, hein, la grâce, anne, des ânes parmi vous, donc c'est le porte-prénom de la grâce, c'est magnifique. Eh bien, anne, rana, ça veut dire se pencher en regardant. Regarder en se penchant, en se pencher en regardant. Bref, c'est pour ça que j'ai intitulé mon livre Le penchant de la grâce. Car la grâce, c'est Dieu qui se penche, c'est la bienveillance divine qui se penche sur sa créature. Or, le grand penchement de Dieu, bien sûr, c'est l'incarnation. Il s'est tellement penché qu'il est tombé parmi nous. On se gardait périlleux sur les cours d'essai, disait-on, dans les trains autrefois, sous la fenêtre, dans les compartiments. Je commence mon livre par cette anecdote, mais voilà, c'est un arme un peu large, je vois, compte tenu de votre génération, vous avez dû connaître ce compartiment, la petite inscription, il est périlleux de se pencher. Eh bien, Dieu a pris ce risque. Il s'est penché au point que sa bienveillance nous a fait le don de son propre Fils. Et c'est évidemment l'incarnation qui peut rénover, ranimer notre espérance plus que toute autre chose, L'espérance chrétienne, évidemment, reprend et accomplit l'espérance du peuple d'Israël, qui trouve son origine et son modèle dans l'espérance d'Abraham, notre Père. Nous allons vivre ce temps de l'Avent avec Jean-Baptiste, que nous verrons dès dimanche prochain, que j'aime appeler, belle expression, le cantonnier de l'espérance. C'est à la route de Louviers et à ce cantonnier qui décède des tas de cailloux. Eh bien, Jean-Baptiste peut être appelé le cantonnier de l'espérance. Qu'est-ce qu'attendait Israël? Israël attendait le grand prophète semblable à Moïse. Parce que Dieu Dieu avait dit, « Je susciterai au milieu de tes frères un prophète semblable à toi. » Voilà ce qu'elle a dit. Dieu a Moïse. On attendait le grand prophète semblable à Moïse. Qu'est-ce qu'Israël attendait encore? On attendait le grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. On attendait le grand roi, qui serait celui promis à David, dont Dieu, par Nathan, avait dit à David, « Il sera ton fils, et il sera mon fils, et son règne n'aura pas de fin. » Or, bien sûr, toutes ces lignes de l'espérance d'Israël ont été accomplies en Jésus-Christ, notre Sauveur. De sorte que André, le premier des appelés que nous avons fêté la semaine dernière, saint André, le protoclétos, le premier appelé, il peut venir dire à saint Pierre, « Nous avons trouvé le Messie. » Dès le chapitre 1 de saint Jean, ils ont compris que Jésus était le Messie. Celui qu'Israël attendait, la grande espérance d'Israël, était pleinement comblée en Jésus. Jésus est l'accomplissement et même évidemment le dépassement de toutes les attentes d'Israël. Si Dieu nous a donné son propre Fils, que pourra-t-il nous refuser? Si notre espérance est certaine, c'est que nous avons la certitude de l'amour de Dieu qui nous a été manifesté en Jésus-Christ. Il n'a pas épargné son propre Fils et il l'a livré à la mort pour nous tous. Que ne nous donnera-t-il point après nous avoir donné son propre Fils? Alors évidemment, Israël sait que son espérance est en Dieu et Israël a essayé de monter vers Dieu, car beaucoup de prophètes, beaucoup même de philosophes païens ont su que la destinée humaine était d'aller en Dieu. Le problème, c'est qu'on ne savait pas par où aller et comment faire. Mais depuis que Jésus-Christ s'est fait homme, non seulement nous savons qu'il nous faut aller en Dieu, mais nous savons le chemin. C'est Jésus qui est le chemin. Pour le dire avec saint Augustin, je vous ai dit le texte, Jésus c'est Dieu où l'on va et la route par où l'on va. Quo itu Deus, quo itu homo. Ça, c'est saint Augustin avec sa concision habituelle. En quatre mots, il a défini l'essentiel du christianisme. Jésus-Christ, c'est le Dieu où l'on va et c'est l'homme par lequel on va. Il est à la fois le terme, la patrie, et il est le chemin, les deux. Alors, comme c'est la veille aujourd'hui de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, nous fêterons demain avec quelle joie. Comme des enfants, ils aiment bien fêter la fête des mères, les enfants. Ils sont tout excités à l'idée de fêter la fête des mères, préparent des petits cadeaux en secret. On est comme ça, nous. Demain, c'est la fête de notre maman, on est tout contents. Non? J'espère. J'ai l'impression aussi, un peu. C'est peut-être que je suis trop long, c'est pas du tout. Parce que moi, une fois que je suis parti, vous savez, vous me direz quand je dois m'arrêter. Hein. Il a été se coucher, il me l'avait pas mal. Ah non, il est là. Voilà. Alors, eh bien, je vous propose que nous prenions ce moment de l'incarnation où il y a ce grand basculement, où notre espérance trouve un fondement définitif en Jésus-Christ, parce que désormais, non seulement nous savons où nous allons, mais nous savons comment aller. Avant, on s'épuisait à vouloir aller vers Dieu et toutes les philosophies, toutes les pensées, hein, toutes les religions asiatiques, à force d'efforts sur soi-même, à force d'efforts moraux, à force d'ascétisme, on parvient à s'affiner pour espérer rejoindre le divin. Évidemment, ces efforts sont vains, nous le savons bien, nous. C'est Dieu qui a fait l'essentiel du chemin. C'est Dieu qui est venu jusqu'à nous. Dimanche dernier, je disais à mes paroissiens, en parlant justement de cette vigilance et de cette attente qui doit nous animer, je donne l'exemple que donne Simone Veil, la philosophe, dans son livre « L'attente de Dieu ». Elle dit « Il en va comme d'un petit enfant qui a été amené au marché de Noël par sa maman, puis tout d'un coup il a lâché la main, il s'est perdu. Panique. Il court en tous sens, en criant et tout ça. Il a tort. Si cet enfant avait assez de force, d'âme, cœur, il resterait toujours au même endroit. Parce qu'il doit savoir, cet enfant, que des deux, c'est évidemment la maman qui est la plus inquiète et que c'est elle qui va faire l'essentiel du chemin pour le retrouver. Il faut seulement, dit Simone Veil, attendre et appeler. Voilà notre situation. Nous attendons et nous appelons. Nous appelons avec foi, avec constance, avec ténacité. Nous appelons la venue de notre Dieu. Car, évidemment, ce n'est pas nous qui allons monter vers Dieu, comme dit la petite Thérèse. Pour monter une rude escalier de la perfection, je me casse la figure, je tombe le nez par terre à tout bout de champ, mais heureusement, il y a l'ascenseur. Et mon ascenseur, ce sont vos bras, ô Jésus. Depuis que Jésus est descendu sur la terre, il est venu nous prendre avec lui, pour nous faire monter avec lui vers notre destinée ultime, qui est de voir Dieu. Alors, l'Annonciation, ça a lieu le sixième mois, comme vous savez, car l'homme a été créé le sixième jour, 6, c'est le chiffre de l'homme, et ça, on sait que ça a lieu le sixième mois, mais où ça a lieu? Je fais souvent cette petite colle. Ça a lieu où? À Nazareth, ça, d'accord. Non, je n'interroge pas les dominicaines, je sais qu'elles sont savantes, donc c'est pas la peine, j'aime leurs élèves, sont savantes aussi, mais... où ça a eu lieu l'Annonciation? La visite de l'ange Gabriel à Marie. À Nazareth, ça, on est d'accord. Comment? Au puits, voilà, théologien, bravo. Au puits, au moins, selon les évangiles apocryphes, le protévangile de Saint-Jacques. D'après le protévangile de Saint-Jacques, c'est au puits, alors qu'elle allait puiser. Déjà toute une symbolique, hein. Mon âme a soif du Dieu vivant. Marie, vraiment, elle était la plus désireuse, évidemment, de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Elle est puisée. Et c'est au bord du puits que l'ange Gabriel la salue en lui disant Kaire, Tetarithomeno. Je te salue, je vous salue, pleine de grâce. Alors pourquoi le protévangile de Jacques met-il, c'est un texte du IIe siècle, très vénérable. A retenu beaucoup d'éléments de sa propre liturgie. Ce texte n'est pas, pas canonique, c'est pas dans la Bible, c'est même un texte très vénérable. Pourquoi le protévangile de Jacques a-t-il mis l'Annonciation au bord d'un puits? Et bien tout simplement parce que, évidemment, vous avez une oreille suffisamment biblique pour savoir qu'à chaque fois dans la Bible qu'il y a une rencontre au bord d'un puits, ça se termine par un mariage, à tous les coups. Moïse, il a rencontré Sipora au bord du puits. Isaac, Rebecca, au bord du puits. Jacob, Rachel, au bord du puits. La Samaritaine, Jésus, au bord du puits. Oui, bien sûr, Jésus est le septième mari. Elle avait déjà cinq maris. Et celui qu'elle avait n'était pas son mari. Le septième mari, c'est-à-dire l'époux parfait de la Samarie. Jésus est époux de l'Église, bien sûr. C'est... C'est ça que ça veut vous dire. Donc c'est un thème genre littéraire. Tous les gens aiment ça. Quand il y a une rencontre, on peut y avoir un mariage. Ce que veut nous dire l'auteur du protévangile de Jacques, c'est que ce qui s'accomplit le jour de l'Annonciation, c'est un mariage. C'est une alliance. C'est l'alliance définitive de Dieu avec l'humanité. Et ça, c'est très important. Parce qu'il y en a eu des alliances. Comme on dit à la messe, tu as multiplié, Seigneur, les alliances avec nous. On les a toutes coupées. Le péché de l'homme a rompu toutes les alliances que Dieu avait voulu sceller avec lui. Cette fois, il a trouvé un stratagème étonnant pour Dieu. Il s'est dit, pour que je sois sûr qu'il ne rompt plus mon alliance, eh bien, je vais envoyer mon fils, et le même sera Dieu et moi. Comme ça, c'est plus possible. On est définitivement. C'est si important à la messe avec la petite goutte d'eau. J'aime beaucoup ce moment. Malheureusement, on dit ça à voix basse, comme cette eau, ce bon vin, le sacrement, on en plus. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Une fois que la petite goutte d'eau est dans le vin, elle est dissociée, l'eau et le vin. Impossible. L'humanité et la divinité, elles sont liées définitivement en Jésus-Christ. Alors, ça, c'est le motif principal. Puisque nous sommes tous portés en Jésus-Christ. Nous sommes membres de son corps, nous sommes définitivement liés avec Dieu. Si ce n'est pas un motif d'espérance, ça, je pense qu'il nous faut. Voilà. Donc, c'est très important ça. Alors ensuite, l'Annonciation, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous raconter. Hein. Ensuite, évidemment, je vous ai mis le texte du protévangile de Jacques, vous pourrez le lire. Eh bien, ensuite, Marie pose une question. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais point d'homme ? Question de bioéthique. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais point d'homme ? Si nous nous demandons, comme la Vierge Marie, comment va-t-il se faire, nous allons répondre. Nous allons recevoir la même réponse que la Vierge Marie. Souvent, normalement, l'homélie s'est faite pour que, justement, on réponde à la question mariale, comment cela va-t-il se faire ? Le prêtre, le diacre, lit l'évangile, et dans l'homélie, il dit, comment cette parole va-t-elle prendre chair dans ma vie ? C'est ça le but de l'homélie, normalement. Le pape François dit que toutes les homélies sont des désastres. Il a dit ça à plusieurs reprises. Merci, très sympa. Mais il n'a pas tout à fait tort non plus. Donc, normalement, c'est faire de la parole qu'on lit, une parole qu'on vit. C'est donner à entendre comment va pouvoir s'appliquer la parole qu'on vient d'entendre dans l'Évangile. Donc, Marie pose la question, comment cela va-t-il se faire ? Moi, souvent, je me pose la question. Comment cela va-t-il se faire ? Comment je vais évangéliser ma parole ? Ça fait 10 ans que j'y suis, j'ai pas l'impression... Ça fait globalement progresser. Je peux me tromper, évidemment, je ne suis pas juge. Enfin, comment cela va-t-il se faire ? L'Esprit Saint viendra sur toi. Comment je vais pardonner à ce voisin palier qui m'empoisonne la vie ? L'Esprit Saint viendra sur toi. Comment je vais évangéliser ce collègue de bureau qui a été comme une tasse ? L'Esprit Saint viendra sur toi. C'est la réponse à tous vos commandes. J'aime beaucoup quand on entend dans les liturgies catholiques, on appelle Marie secret du commandement. Marie le secret du commandement. Comment cela va-t-il se faire ? Bien, l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis, vous connaissez bien sûr la parole de l'ange qui termine en disant « Rien n'est impossible à Dieu ». Ça, c'est la vraie parole de l'espérance. Nous savons qu'aussi engoncé que nous soyons dans notre péché, rien n'est impossible à Dieu. Il peut faire de nous un saint. Quand on lit l'évangile de l'Annonciation, dans la liturgie, ça prend, disons, entre 45 secondes et 1 minute 15 à peu près. Ça dépend de la vitesse du lecteur, bien sûr. Je me dis que peut-être le colloque entre l'ange et la Vierge Marie n'a pas duré davantage. Autrement dit, il a fallu, pour que Dieu sauve le monde, 45 secondes et un mois. Eh bien, pour faire de nous des saints, il n'en faut pas davantage à Dieu. Un bref instant et un mois, et nous sommes saints. Non ? À essayer. Dites-vous ce soir, à partir de ce soir, j'aime Dieu de tout mon cœur, j'aime mon prochain comme moi-même. Essayez.
C'est pas plus compliqué que ça.
Alors, il y a une très belle. Je sais pas, il faut vraiment dire combien de temps j'ai. Je dois parler jusqu'à quand ? J'ai encore 10 minutes ? C'est ça, merci. Alors, je vais vous faire une belle petite histoire. Tiens, je vais vous raconter une belle petite histoire que j'ai entendue tout récemment qui montre bien qu'il faut toujours croire que rien n'est impossible à Dieu. Et notamment dans notre façon de considérer les autres. On a vite fait les juger. Oh, celui-là, c'est l'impeccable. Celui-là, c'est il boude tout le temps. Celui-là, il est colérique. Celui-là, il est. Bon. On doit être capable de porter un regard de bienveillance sur les autres, c'est-à-dire de voir en l'autre, non pas ce qu'il est, mais l'homme qu'elle peut devenir avec la grâce de Dieu. Par exemple, les maris regardent leurs épouses. Non pas simplement telles qu'elles sont maintenant, mais telles qu'elles peuvent devenir avec la grâce de Dieu. Et inversement, évidemment. Ce que l'autre peut devenir avec la grâce de Dieu. Alors, l'histoire que j'ai entendue récemment, c'est une histoire, voilà, il y avait une maman qui avait un fils qui s'appelait Thomas, et elle reçoit une lettre, le fils revient de l'école, avec cette lettre. Et il y a marqué sur la lettre, à n'ouvrir que par la maman du petit Thomas. Alors, Thomas donne maman, des cachettes, elle lit, elle fond en larmes. Bon. Et puis finalement, elle finit par lire à son fils. C'est une lettre du maître d'école qui dit... Votre fils, madame, est tellement brillant, tellement doué, tellement intelligent, que l'école ne lui sert vraiment à rien et que nous n'avons aucun maître qui soit à la hauteur de sa science, donc gardez-le donc chez vous. C'est ce que fait la maman. Le lendemain, elle fait la classe elle-même à son enfant, elle ne l'envoie plus désormais à l'école. Cet enfant va devenir instruit par sa maman. Une personne tout à fait capable, un grand savant, un grand scientifique. Il va inventer l'ampoule électrique. Il va inventer le télégraphe. Il va inventer le phonographe. Il va inventer la caméra. Grand savant. Et puis, voici que les années ayant passé, la maman meurt. Alors ce fils Thomas revient dans la maison maternelle, range les affaires de sa mère et retrouve la lettre en question. Il l'ouvre, il la décachette et il lit « Votre fils, madame, est si peu doué, si dénué d'intelligence, si campre, si incapable qu'il vaut mieux que vous le gardiez à la maison et qu'il n'aille plus à l'école. » Ce fils, c'est Thomas Edison. Le grand savant, une histoire, hein. Voyez ce que on peut devenir avec l'amour d'une mère. Voyez ce que l'amour d'une mère peut faire de vous. Alors je dis ça à la veille de l'Immaculée Conception. Si vous vous mettez à l'école de la Vierge Marie, elle peut faire de vous, pas un grand savant, mais un grand saint. Voilà. J'aime bien cette histoire, hein. Elle est trop belle pour être vraie, je trouve. Mais il paraît qu'elle est vraie, c'est ça qui est incroyable. C'est magnifique, c'est ça. Alors évidemment, Marie répond par son fiat. Et c'est le grand fiat de la Vierge Marie qui reprend d'ailleurs les mots de la fille de Jephthé. Fais pour moi ce qui est sorti de sa bouche. Je renvoie les plus bibliques d'entre vous au livre des Juges, au chapitre 11. Évidemment, elle est encore mieux que la fille de Jephthé, la Vierge Marie. Et puis ensuite, vous avez remarqué que le récit de l'Annonciation se termine par une petite notation laconique qu'on oublie quelquefois même de lire, tellement c'est détaché du texte, et qu'on oublie souvent de commenter. Il y a marqué, à la fin, « Alors l'ange la quitta ». Et tout, un tout petit verset, tout court. « Alors l'ange la quitta ». C'est très important cette parole. Ça veut dire que désormais pour Marie, il n'y aura plus d'intervention angélique. Il n'y aura plus de révélation particulière. Il n'y aura plus de vision. Elle devra, pendant toute sa vie, faire fond sur ce « oui » qu'elle aura une fois pour toutes prononcé. Et Marie vivra toute sa vie de ce « fiat ». Et évidemment aussi lorsqu'elle se retrouvera à l'autre bout de l'Évangile, au pied de la croix, constatant l'exact contre-pied de tout ce que l'ange lui a annoncé. L'ange lui a dit « ton fils sera grand ». Et elle voit qu'il est lamentable, pendu au gibet. Ton fils règnera sur le trône de David. Et elle voit qu'il est cloué sur la croix. Elle voit exactement le contraire de tout ce qui lui a été annoncé. Et pourtant, elle croit. Stabat mater. Saint Ambroise, que nous fêtons aujourd'hui, dit était énervé que déjà à l'époque, on représente Marie déliquescente au pied de la croix, écroulée, effondrée. Non. Saint Ambroise dit. Je lis qu'elle était debout, je ne lis pas qu'elle pleura. Elle était debout, tout éveillée en sa foi, certaine que ce que Dieu a dit s'accomplira. Elle était debout, dans l'espérance, espérant contre toute espérance. C'est le fameux et le très beau texte de saint Paul qui parle d'Abraham, mais qui s'applique combien plus à la Vierge Marie. Lisons ce texte magnifique, c'est le texte 9. Espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi père d'une multitude de peuples, selon qu'il fut dit, telle sera ta descendance. C'est une foi sans défaillance qu'il considéra son corps déjà mort. Il avait quelque 100 ans, et le sein de Sarah mort également. appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu. Certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Voilà pourquoi cela lui fut compté comme justice. Imaginons que ces mots, s'ils sont dits pour Abraham, sont encore plus vrais, bien sûr, pour la Vierge Marie, espérant contre toute espérance, appuyée sur la promesse de Dieu. Alors, voilà ce qu'on peut dire. La Vierge Marie est bien sûr, et il me plaît de le dire en cette veille de l'Immaculée Conception, notre espérance. Le samedi, vous le savez, est liturgiquement le jour de la semaine qui lui est consacré, parce que le samedi saint, bien sûr, Jésus était mort, il était descendu aux enfers, et que ne restait donc sur la terre que l'espérance mariale, la petite flamme de l'espérance de Marie. Alors que son fils était enseveli, Marie espérait pour tous. Le Concile Vatican II, dans sa grande constitution dogmatique Lumen Gentium, vous le savez, un 8e chapitre sur la Vierge Marie, qui se conclut par ces mots, « Marie resplendit comme reine et intercède comme mère dans la gloire du ciel. En attendant la venue du jour du Seigneur, elle brille déjà comme un signe d'espérance assurée et de consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage. » Lumen Gentium, numéro 68. Un signe d'espérance assurée. Notez le pléonasme. L'espérance, c'est forcément assuré. On a le droit de faire du pléonasme. L'espérance assurée. Marie brille déjà. Nous pensons bien sûr à l'hymne Ave Maris Stella. Nous pensons à Marie, étoile de la mer. Nous pensons au texte de Saint Bernard. Regarde Marie dans les tribulations de l'océan et tu atteindras au port de toute félicité. Il y a un sanctuaire en France où on vénère particulièrement Marie, mère de l'espérance. C'est le sanctuaire de Notre-Dame de Pomme. Les petits-enfants formés par l'abbé Guérin, vous savez, c'est très étonnant, j'espère qu'il sera béatifié bientôt, l'abbé Guérin. L'abbé Guérin est arrivé à Pomme. Vous savez, Pomme, c'est près de, dans le diocèse de Laval, là-bas, c'est un bled, hein. Et donc il arrive là-bas, disons au milieu du 19e siècle, 1840, quelque part par là. Il arrive là-bas, dans le diocèse de Laval. L'église est à demi écroulée. On n'enterre pas les morts. Il n'y a pas de catéchisme. Les enfants sont illettrés. Il n'y a pas de route pour aller là-bas. Il n'y a plus rien de chrétien. Plus rien. Au milieu du 19e, souvent on imagine que la France a été globalement chrétienne jusqu'aux années 62, et qu'ensuite ça a été le débarque, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au milieu du 19e siècle, il y avait le curé d'Ars, c'est pareil, hein, quand il arrive, mais il n'y a plus de chrétiens à Ars. Même époque à peu près. Là, c'est à Laval. Il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa trouvaille, il reconstruit l'église, puis il met une statue. Puis il fait venir les religieuses, enfin l'école, les enfants. Puis petit à petit, pendant des années, il va reconstruire sa paroisse autour de la Vierge Marie. Et il donne à tous ses paroissiens, les Pommiers, une grande dévotion à Notre-Dame, mère de l'espérance. Et il leur apprend le cantique qu'ils chanteront justement le jour où Marie apparaîtra. Marie, mère de l'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France. Priez, priez. Et, malheureusement, il a beau faire ça. Eh bien, la situation n'est pas brillante en 1871. C'est l'hiver, nous sommes le 17 janvier, il fait froid, c'est la neige, on grelotte, les récoltes ont été lamentables, il n'y a plus rien à manger. Tous les hommes du village sont partis à la guerre, les Prussiens sont aux portes de Laval. C'est la cata. L'abbé Guérin réunit son peuple dans l'église, il dit « on va prier ». Les gens disent « non, on ne veut plus prier ». Ça fait 30 ans que vous nous faites prier, regardez dans la situation. Ça ne sert à rien, monsieur l'abbé, de prier. On ne veut plus prier. Le dimanche, il dit ça. Le mardi qui suit, la Vierge Marie apparaît dans le ciel et elle fait le premier tweet de l'histoire. S'inscrit en dessous de la Vierge Marie les mots suivants. Mais priez les enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Comme une réponse exactement à la requête qu'avaient fait les enfants auprès de la Vénéra. On ne veut plus prier. On ne veut plus prier, ça ne sert à rien. Mais si, mais priez donc, mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Amen. Je vois que la mémomane s'agite, donc ça doit être le temps.
Le mois d'arrêter.
Merci, cher Père. Vous avez dit. Merci beaucoup de vos propos qui mettent en délicatesse les prêtres de cette paroisse quant à les prédications de demain. Mettez la barre haut et nous allons essayer de relever le gant. Les paroissiens vous diront, d'ailleurs. Alors, à la sortie de cette conférence, vous trouverez, si vous le souhaitez, et vous le souhaitez tous, je suis sûr, 4 ouvrages, je crois, du Père de Pontière, notamment un qui concerne l'espérance, quelle espérance d'être sauvé, petit traité de la rédemption. Et puis, le tout récent ouvrage auquel vous avez fait allusion à plusieurs reprises, le penchant de la grâce, laisser Dieu agir dans nos vies. Voilà, c'est un diptyque en somme. Je crois qu'il faut se procurer les deux pour vraiment tirer profit de la substance qui s'y trouve. Voilà. Et puis 2 livres sur la Vierge Marie. C'est un petit embryon de petite tranche d'une bibliographie plus abondante qui, j'espère, ornera bientôt aux bibliothèques. La fête de Noël approche. Voilà, n'hésitez pas à aller consulter également les conférences de Carême qui ont été éditées aux éditions Parole et Prière, je pense. Parole et Silence, qui est là aussi prise la foi sur le mystère de l'Église, sur. Une interprétation des disciples d'Emmaüs, notamment, et puis le dernier, l'homme irrémédiable, le dernier, sur le salut. Alors voilà, toutes choses qui concernent non seulement les fins dernières, mais notre engagement dans le monde, c'est, je rejoins ce que vous avez dit au début. Je remercie au passage, en plus, donc, d'un remerciement appuyé au Chalon de Montière. Je remercie également la bibliothèque des Cyclades. Qui, à chaque conférence de ce cycle annuel, avec fidélité et jusque tard le soir, nous fait l'amitié d'être présent. Merci beaucoup, madame, de votre prévenance. Et j'espère qu'elle sera honorée par les fidèles qui sortiront dans quelques instants.
Curer et prendre soin, c'est ça?
Ok.
Voilà. Et donc, le contraire de curer, c'est le vicaire, c'est ça? Et bien, je propose qu'on peut-être on va se lever. Et la Vierge Marie se veille de l'Immaculée Conception. Remercions le Seigneur pour toutes ces grâces. On voulait aussi notre confiance. Toutes ces grâces continueront à tomber sur nous. Qu'il nous reste fidèles à cette perle, cette vertu que nous avons reçue le jour de notre baptême. Ces magnifiques vertus de l'espérance. Je vous salue Marie.
Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Tiens, de donner sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous.
Et avec vous.
Par l'intercession de la Vierge Marie, Mère de l'Espérance, que le Seigneur vous accorde sa bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Bénissons le Seigneur.
Rendons grâce à Dieu.
Même si le marché de la Sainte Bénédiction ce week-end, il y a une deuxième séance. Et je crois que le père Guillaume, ce serait heureux de dédicacer ses livres.